Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, en cette vigile de Pâques, nous allons avoir deux baptêmes et nous allons renouveler nos promesses du baptême. À cette occasion, posons-nous deux questions. Qu'est-ce que le baptême et quels en sont les principaux effets? Ce qui nous permettra d'en tirer quelques conclusions pratiques. À la première question, nous répondrons que le baptême est un sacrement qui nous configure à Jésus-Christ et en conséquence nous fait mourir au péché et renaître à une vie nouvelle. C'est la raison pour laquelle l'Église associe le baptême à la nuit pascale, parce que le baptême nous configure à Jésus mourant et ressuscitant. C'est aussi ce que saint Paul nous dit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle. Cette signification du baptême était plus visible dans l'ancienne façon de le donner par immersion. Voici comment un contemporain des apôtres, saint Denis, décrit la scène. Trois fois le prêtre plonge dans l'eau, le catéchumène, en invoquant chaque fois qu'il pénètre dans l'eau et chaque fois qu'il en ressort, les trois personnes de la divine béatitude, c'est-à-dire de la Sainte Trinité. Cette immersion dans l'eau symbolisait l'ensevelissement de notre Seigneur dans le tombeau et la sortie de l'eau, la résurrection de notre Seigneur qui sort vivant du tombeau. On faisait trois immersions, non seulement en l'honneur des trois personnes divines, mais aussi pour signifier les trois jours et les trois nuits que notre Seigneur a passé dans le tombeau. Le baptême est un sacrement et comme tous les sacrements, il est un signe efficace, c'est-à-dire qu'il cause la grâce qu'il signifie ou qu'il symbolise. Le baptême signifiant la mort et la résurrection de notre Seigneur donne aux catéchumènes de mourir au péché et de ressusciter à une nouvelle vie, celle de la grâce. Aujourd'hui, on ne confère plus habituellement le baptême par immersion, mais par une ablution d'eau qui coule sur le front du catéchumène. Mais le symbole est le même. L'ablution signifie la purification de l'âme, c'est-à-dire la mort au péché, et l'eau symbolise la grâce qui vient donner une nouvelle vie à l'âme, comme notre Seigneur le disait à la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », peut-être lui aurais-tu fait toi-même cette demande et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau qui donne la vie. Que le baptême soit une mort au péché et une naissance à une nouvelle vie, nous en avons de multiples figures dans la Bible. Par exemple, le passage de la mer Rouge qui nous a été rappelé tout à l'heure. Les Égyptiens figurent les péchés qui sont détruits dans la mer, tandis que les Hébreux sortent sains et saufs pour commencer une nouvelle vie dans le désert qui les conduira à la terre promise, figure du ciel. Notre Seigneur lui-même a dit que le baptême est une nouvelle naissance. Ainsi, il a dit à Nicodème, qui était venu l'interroger de nuit, « en vérité, je te le dis, aucun homme, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ainsi, nous avons répondu à notre première question. Qu'est-ce que le baptême? C'est une mort au péché et une naissance à une vie nouvelle. Quels en sont les effets principaux? Il y en a trois, nous dit saint Thomas d'Aquin, à la suite des pères de l'Église. Le baptême nous incorpore au Christ, il nous illumine et il nous rend féconds. Incorporation, illumination, fécondité, voilà les trois effets du baptême. Et saint Thomas l'explique ainsi. Par le baptême, dit-il, on est régénéré pour la vie spirituelle. Mais il n'y a de vie que pour les membres qui sont unis à la tête, d'où ils reçoivent le sens et le mouvement. Il est donc nécessaire que par le baptême, on soit incorporé au Christ comme un de ses membres. Christ est la tête du corps mystique dont nous sommes les membres, nous devenons les membres par le baptême. Saint Thomas continue. Mais de la tête naturelle, la tête de notre corps, dérive dans les membres le sens et le mouvement. De même, de la tête spirituelle, qui est le Christ, dérive dans ses membres un sens spirituel, la connaissance de la vérité, et un mouvement spirituel, l'impulsion de la grâce. Il s'ensuit que le Christ illumine les baptisés pour qu'ils connaissent la vérité, et qu'en leur infusant la grâce, il leur donne la fécondité des bonnes œuvres. Voilà donc les trois effets du baptême, incorporation, illumination, fécondité. Et nous pouvons en tirer trois conséquences pratiques pour chacun d'entre nous. Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Nous devenons un membre de son corps mystique. Au point que lorsque les chrétiens sont persécutés, notre Seigneur lui-même se plaint d'être persécuté. C'est ce qu'il a dit à Saul, le futur saint Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors que saint Paul, enfin Saul à l'époque, persécutait les chrétiens. Mais en persécutant les chrétiens, c'est notre Seigneur lui-même qui se sentait persécuté. Mais si nous sommes les membres de notre Seigneur, lorsque nous commettons des péchés, le déshonneur rejaillit sur notre Seigneur. C'est ainsi que saint Paul encourageait les premiers chrétiens à se garder de l'impureté, en leur disant « Vos corps sont les membres du Christ ». Et saint Léon disait « Agnoshe o Christiane dignitatem tuam » « Chrétien, connais ta dignité ». Et après avoir été uni à la nature divine, ne va pas par une conduite honteuse retourner à ton ancienne bassesse. Le deuxième effet du baptême est de nous procurer l'illumination de l'intelligence en la mettant en contact avec celle de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous illumine. Saint Paul disait aux Colossiens, « Rendons grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Puisque nous avons été illuminés par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, demandons-lui la grâce de rester dans cette lumière. Comme nous l'avons dit, comme le prêtre l'a dit, en allumant le cierge pascal tout à l'heure, Lumen Christi gloriosae resurgentis dissipet tenebras cordis et mantis. Que la lumière du Christ ressuscitant glorieux dissipe les ténèbres de nos cœurs et de notre esprit. Mais pour que le Christ continue de nous illuminer, il faut faire deux choses. D'abord, il faut avoir en horreur le mensonge, la fausseté, l'hypocrisie. Tout ce qui est opposé à la lumière de notre Seigneur. Ensuite, il faut que nous mettions notre esprit en contact avec la vraie doctrine, celle qui nous est donnée par la tradition. Comme tout à l'heure, pour allumer notre cierge, nous l'avons mis en contact avec la flamme qui venait du cierge pascal. Enfin, troisièmement, puisque le baptême procure à nos âmes la fécondité spirituelle, et nous donne le pouvoir de faire des œuvres méritoires pour nous et pour les autres, eh bien, il faut nous mettre à l'œuvre. Ne soyons pas chrétiens en parole ou en pensée seulement, mais en acte et en vérité. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, disait notre Seigneur. Et saint Jean commentait, dans son premier épître. À ceci, nous avons connu l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. et nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais par les actes et en vérité. Car si nous ne portons pas de fruits, craignons d'être comme ce figuier stérile que notre Seigneur a maudit, ou encore comme celui qu'il se propose d'arracher. Il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc, pourquoi occupe-t-il encore le sol ?» Le vigneron répondant lui dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, jusqu'à ce que je creuse tout autour et que j'y mette du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas ensuite. » La grâce du baptême, comme toutes les grâces, nous vient par la Sainte Vierge, médiatrice de toutes les grâces. Demandons-lui de bien nous disposer pour que nous recevions bien tous les effets du baptême, que nous fassions bien notre rénovation de nos promesses du baptême tout à l'heure, que nous aimions à vivre dans la lumière de notre Seigneur, cette lumière du feu nouveau, lumière pascale, qu'il allume aussi dans notre âme le feu de la charité, qui nous presse à être féconds en bonnes œuvres. Ce vigneron qui sollicite du maître un sursis pour que le figuier puisse porter du fruit, n'est-ce pas aussi une figure de la Sainte Vierge qui arrête le bras de son fils, mais qui nous presse à produire du fruit? Eh bien, demandons-lui, en cette nuit pascale, que le baptême produise dans nos âmes tous ses effets. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.